15h, 16h, sans rendez-vous sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Bonjour et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. C'est tous les jours de 15h à 16h, tous les jours. Avec le docteur Jimmy Mohamed, nous tentons de vous éclairer sur les sujets de santé qui vous préoccupent. Et donc, comme tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux dents des femmes enceintes. Oui, c'est pas parce qu'on attend un bébé qu'on est épargné par les soucis dentaires. Alors justement, quels soins peut-on réaliser pendant la grossesse? Y a-t-il des précautions à prendre? Pour en parler, notre invité, ce sera le docteur Christophe Lecard. Il est chirurgien dentiste et membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien, nous nous intéresserons à la petite pilule bleue, le fameux Viagra, un médicament phare aujourd'hui dans la dysfonction érectile. Mais savez-vous que ce traitement a été découvert il y a un peu plus de 20 ans? Par hasard, nous vous en dirons plus. Enfin, vers 15h50, ce sera la chronique sexo de l'émission avec Catherine Blanc, notre sexologue aujourd'hui. Elle nous parlera de bisexualité.
Mélanie Gomez vous reçoit sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc on écoute la première question, c'est celle de Samia.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Voilà, je prépare la trousse à pharmacie pour les vacances et je me rends compte que je n'ai pas de thermomètre. En plus, j'ai un bébé. Donc je voulais savoir, à votre avis, quel était le meilleur thermomètre et puis quel était le plus fiable surtout. Merci.
Alors Jimmy, d'abord on va répondre précisément à cette question quand on a un bébé, puisque c'est le cas de Samia. Quel thermomètre il faut choisir? C'est vrai qu'aujourd'hui on a vraiment le choix. Il y en a qui se prennent dans l'oreille maintenant par exemple, est-ce que c'est bien ça?
Alors déjà c'est vrai qu'avec le Covid, les thermomètres étaient en rupture de stock et il est temps...
Il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte qu'ils n'en avaient pas chez eux.
Exactement,
aussi.
Et ouais. Tout le monde s'est rué, on en a acheté plusieurs et donc il n'y en avait plus. Donc là c'est le moment d'en acheter, surtout lorsque vous avez des enfants en bas âge. Et pour répondre à la question, le thermomètre qu'on met dans l'oreille, le thermomètre auriculaire, il peut être très efficace, mais il faut bien mettre l'embout, ce qui vous risquez de sous-estimer la température. Et chez les enfants, ils ont un conduit auditif qui est plutôt court et étroit, et donc c'est parfois difficile. Donc c'est pas forcément la méthode la plus recommandée. C'est simple, un bébé, le thermomètre, ça se met dans les fesses,
oui,
tout simplement.
Ça. Et je vois les fais dans l'oreille, et parfois c'est vrai qu'on n'a pas la même température à deux ou trois fois près parce que il est pas enfoncé comme il faut.
Donc exactement. Ouais. Donc vraiment, on met le thermomètre dans les fesses des enfants. C'est pas douloureux, c'est pas invasif, c'est pas un geste déplacé. Si vous avez le moindre doute, c'est la température centrale. Et surtout, vous avez besoin de rajouter aucun degré. Donc, si vous voulez, vous avez peur de leur faire mal, vous pouvez mettre un peu de biafine. Mais c'est pas douloureux. Vous en avez pour quelques secondes. Et surtout, vous avez l'idée sur la réelle température de votre enfant.
Mmh. On sait qu'on peut aussi le mettre, ce thermomètre électrique, par exemple, dans la bouche, chez les adultes. Mais chez les enfants, c'est pas recommandé du tout. Je crois que ça peut être dangereux.
C'est pas recommandé. Alors, en plus, si vous l'avez mis dans les fesses quelques temps auparavant.
C'était pas l'idée, là.
C'est pas non plus, même si c'est désinfecté, il faut être très courageux pour le mettre dans la bouche derrière.
Dans la bouche, c'est fiable?
C'est pas très fiable. Non, c'est une mesure aléatoire. La même chose lorsque vous le mettez sous le bras. Alors, il faut rajouter. Ça dépend du thermomètre. Attention, souvent, mais combien faut rajouter? Ça dépend de la marque et c'est écrit le jour où vous achetez le thermomètre, vous avez une notice et
0,5,
on vous dit entre 0,5, 0,9 voire 1 degré. Donc vraiment plutôt à proscrire, même si ça peut être du dépistage et avoir simplement une idée de la température.
Donc s'il y en a un à choisir pour toute la famille, on prend lequel alors?
Celui qui coûte le moins cher, 3 ou 4 euros maximum.
Truc électrique.
Exactement.
Là, ouais.
Vous le cassez, c'est pas très grave, vous en rachetez. Les thermomètres frontaux avec le pistolet, alors il y a une marque qui est très bien, je peux pas la dire, sinon on va dire que j'ai un conflit d'intérêt comme de méchant médecin, mais je vous conseille pas de l'acheter, ça coûte 30, 40, 50 euros, c'est un sacré budget.
Il est tout simple à 3-4 euros.
3-4 euros, parce que c'est ce que j'ai pour mes enfants, ça marche très bien. On le met dans les fesses quand il y a un doute et puis comme ça on est tranquille.
Parfait, merci beaucoup Jimmy. On va passer à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est une question donc de Ludovic qui vit à Dijon.
Bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Tout d'abord, je profite de ce message pour vous dire merci. Merci pour cette émission, merci pour toute cette année. C'était bien sympa de parler petit bobo, médecine et autres dans la bonne humeur et toujours avec de la rigueur et de la précision. D'ici la rentrée, j'avais une question un peu délicate à vous poser. Souvent, je suis en extérieur car je me déplace beaucoup pour mon travail et en journée, en extérieur, je me retrouve souvent constipé. À la maison, tout va bien, donc je voulais avoir votre avis. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Qu'est-ce que je peux faire pour l'éviter? Est-ce qu'il y a un type d'eau en particulier à boire, par exemple? Merci beaucoup et bonne journée.
Merci beaucoup à vous Ludovic, c'est très gentil ce genre de message.
C'est très honnête, c'est très sincère, il est juste. Voilà.
C'est bien. Alors Jimmy, pour répondre à la question de Ludovic, il parle de l'eau, c'est vrai qu'on m'avait dit qu'il y avait des eaux riches en magnésium qui pouvaient aider, c'est vrai, ça
oui,
marche?
Oui exactement, c'est l'eau qui est riche en magnésium qui peut aider au transit, mais c'est l'eau de façon générale. Si jamais vous êtes constipé, il faut déjà boire et surtout éviter les boissons sucrées, les boissons gazeuses.
Ça constipe ça.
Qui constipe, et donc déjà rien que le fait de boire, ça permet d'activer le
transit,
tube digestif
ouais.
Pour avoir, en fait on hydrate le bol fécal tout simplement, et donc on va à la selle plus rapidement.
Ça sort plus facilement. effectivement. Qu'est-ce qu'on met dans l'assiette, justement? Vous parliez du bol tout court. Moi, je parlais du bol alimentaire plutôt. Ça compte aussi. Il faut plus de fibres. Comment on fait quand on est constipé occasionnellement comme
Oui,
ça.
Alors c'est vrai qu'il faut augmenter son apport en fibres. Donc chez les enfants, c'est parfois difficile. Ils sont souvent restrictifs. Ils veulent manger que des pâtes, que des pommes de terre.
Ça, c'est pas génial.
Il peut y avoir une constipation. Donc manger des pruneaux, c'est vraiment, dans les études, ça a été prouvé. Le pruneau, que ce soit sous forme de jus ou le fruit, tout simplement, ça peut aider au transit. Et donc des légumes verts, des haricots verts, des petits pois. Enfin, ce que vous voulez, ce qui passe, des légumes. Mais attention, l'activité physique est tout aussi importante. Si vous ne bougez pas, vous n'avez pas de transit.
On est plus constipé quand on est sédentaire.
Exactement.
Hein,
faire caca, c'est la vie. Et donc, si vous ne vous bougez pas, ben vous ne faites pas caca, tout simplement. Et donc, chez les enfants, une activité physique peut prévenir des épisodes de constipation.
D'accord. Et pour ceux chez qui ça devient vraiment chronique, il dit qu'il se déplace souvent pour le travail. Donc, si à chaque fois qu'il n'est pas chez lui, il est constipé, il y a des traitements médicamenteux.
Oui, évidemment.
Éventuellement.
Alors, déjà, faire attention aux traitements qui peuvent vous constiper. Souvent, les antalgiques, les médicaments contre la douleur peuvent constiper. Des traitements anti-reflux, des antidépresseurs. Donc, attention à ce qui peut vous donner de la constipation. Et puis après, derrière, vous avez des laxatifs. Alors, certains patients pensent qu'une fois qu'on a un laxatif, les intestins vont être habitués à vie. On a plusieurs types de laxatifs, les stimulants qui vont vous donner envie d'aller aux toilettes, et puis ce qu'on appelle les laxatifs qui vont gonfler aussi le bol fécal. Et à ce moment-là, vous pouvez le prendre toute votre vie. Vous n'avez pas l'intestin feignant, et surtout pour votre confort et votre qualité de vie, vous êtes soulagé. N'oubliez pas que si vous êtes constipé de façon chronique, vous pouvez avoir des hémorroïdes, et donc ça peut être très douloureux. Bref, allez voir votre médecin, quelques conseils simples, et en général, c'est réglé.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Ludovic, qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions, au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité du jour, c'est le chirurgien dentiste Christophe Lecard, avec qui nous allons faire un point sur les soins dentaires possibles ou non pendant la grossesse, les précautions à prendre pour prendre soin de ses dents quand on attend un petit bébé. On en parle dans quelques minutes. À tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Europe 1. Sans rendez-vous. Mélanie Gomez.
Heureuse de vous retrouver dans Sans rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. C'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, docteur Lecard, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chirurgien-dentiste et membre de l'UFSBD, je l'ai bien dit cette fois, l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors, notre thème du jour, on l'a dit, c'est la santé dentaire des femmes enceintes. D'abord, est-ce que du fait de la grossesse en elle-même, est-ce qu'il y a des modifications au niveau des dents ?
Il y a des modifications au niveau de la bouche quand on est enceinte, et la première modification, elle se fait au niveau gingival, parce qu'il y a une imprégnation hormonale au niveau du tissu gingival, et une femme enceinte peut souffrir d'une gingivite gravidique, la gingivite de la femme enceinte. Alors c'est une gingivite qui peut être très impressionnante, où les gencives sont très gonflées, elles ont tendance à saigner lors du brossage et même de manière spontanée, et dans les cas extrêmes, cette gencive peut même recouvrir l'intégralité des dents.
Ah oui, quand
Alors,
même.
Cette gingivite n'est pas du tout grave. Hein. Une fois l'accouchement
fait, réversible.
Eh bien, c'est 100% réversible. Donc, cette gingivite disparaît. Mais attention, si on est enceinte, on peut aussi avoir une gingivite classique, gingivite liée à la présence de plaques dentaires et de tartre. Et si on ne traite pas cette gingivite, elle peut évoluer vers une autre maladie qui s'appelle la parodontite, où là, il y a une atteinte des tissus de soutien de la dent, c'est-à-dire le déchaussement de la dent. On a une perte de gencive et d'os autour de la racine des dents.
Ça s'infecte et tout ça ou...
Oui,
ouais.
On peut avoir des abcès qui se forment. Et ce n'est pas du tout anodin d'avoir une parodontite quand on est enceinte, parce que c'est l'un des facteurs de risque pour les accouchements prématurés avec des bébés de faible poids.
Oui, à prendre très très au sérieux. Je vois Jimmy, vous ouvrez grand les yeux, effectivement.
C'est passionnant de savoir que la santé bucco-dentaire peut avoir un réel impact sur les enfants et aussi sur le bébé qui va naître. Mais du coup, comment est-ce qu'on traite une gingivite quand on est enceinte ? Est-ce que c'est la même chose que lorsqu'on n'est pas enceinte ?
Alors, le traitement de la gingivite est quasiment le même. Donc, si c'est une gingivite classique, il faut donc faire un nettoyage professionnel, c'est-à-dire un détartrage et un polissage réalisé au cabinet dentaire. Et en ce qui concerne la gingivite particulière de la femme enceinte, on peut utiliser des bains de bouche antiseptiques et bien sûr des bains de bouche sans alcool du fait de l'état de grossesse.
Mais ça se règle en général. C'est très fréquent vraiment durant les grossesses sur des femmes enceintes, sur 100 femmes enceintes, il y en a combien qui vont avoir ça ?
Environ 80% des femmes enceintes souffrent de cette gingivite gravidique à des stades qui sont totalement différents, mais la plupart signalent quand elles viennent au cabinet, j'ai les gencives qui sont un peu plus gonflées et qui ont tendance à saigner au cours de la journée.
Alors, il y a cet adage populaire, un bébé, une dent, c'est vrai ou pas ? On entendait grand-mère qui disait ça, cet adage, tu vas voir, de toute façon, pendant la grossesse, les dents trinquent, mais c'est vrai ou pas ?
Eh bien non, le bébé n'est responsable de rien, donc le bébé n'est pas responsable des caries qui risquent de se former au cours de la grossesse.
Mais ça vient d'où cet adage du coup, un bébé, une dent, ça vient bien de quelque part ?
Parce qu'on peut effectivement avoir des caries pendant cette période de grossesse. Et pourquoi ces caries se forment ? Eh bien, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que au cours du premier trimestre, eh bien, les femmes peuvent souffrir de nausées, et donc ces régurgitations acides et cette acidité présente dans la bouche va déminéraliser les dents et va augmenter le risque de formation de caries.
Mmh. Jimmy.
Et puis parfois, alors moi j'ai le souvenir de ma femme lorsqu'elle était enceinte, elle a eu beaucoup de nausées et de vomissements au premier trimestre, et tous les matins, le fait de se brosser les dents, bah, ça provoquait des vomissements. Donc comment est-ce qu'on fait quand on est enceinte?
Parce qu'il faut bien les brosser quand même, hein, on est d'accord.
Oui. Ouais. Et en conséquence, ce qui se passait, c'est que du fait des vomissements, eh bien, les femmes ne se brossent moins bien les dents.
Ou moins longtemps.
Et moins longtemps. Donc, ce qu'il faut faire quand on a des nausées, eh bien, il faut au minimum se rincer la bouche ou idéalement une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau et on réalise un bas de bouche. Le bicarbonate va neutraliser les acides qui sont présents dans la bouche. Surtout, il ne faut pas se précipiter sur sa brosse à dents parce qu'on est sur un émail qui est fragilisé comme il est déminéralisé. Et donc, si on va frotter sur cet émail fragile, eh bien, on va éliminer une partie de la couche d'émail.
Donc, on rince à l'eau claire d'abord, c'est ça la bouche après des vomissements de grossesse, hein, je veux dire.
À l'eau claire ou alors une cuillère à café de bicarbonate dans un verre d'eau.
Mais celles qui vont vraiment vomir comme ça à répétition, il y en a, hein, chez qui c'est très très grave, hein. C'est même une maladie, hein. Jimmy, je crois, quand vraiment elles vomissent trop.
Les vomissements gravidiques qui conduisent ensuite à l'hospitalisation.
Parce qu'il y a des nausées, bon, certes, chez beaucoup de femmes, mais par contre, ça, quand ça va jusque-là, c'est plus rare. C'est quoi, c'est l'acide va quoi ronger les dents, l'émail, c'est ça? On va se retrouver avec du coup des caries simplement ou un émail très abîmé?
On se retrouve avec un émail qui va totalement disparaître puisque cette acidité va dissoudre totalement l'émail.
Trois mois de nausées, par exemple, et de vomissements très très forts, ça peut faire déjà ça?
Oui. C'est un autre problème que l'on rencontre aussi chez les personnes qui souffrent d'anorexie, donc avec des vomissements à répétition, où là, il y a vraiment disparition totalement de la couche d'émail autour des dents.
Jimmy ?
Et le fait de vomir, est-ce que vous avez parlé des bains de bouche qu'on pouvait faire avec le bicarbonate ? Est-ce que ça peut être une solution alternative si on vomit beaucoup, en complément du brossage de dents, de faire des bains de bouche ? Vous avez dit ceux sans alcool, donc on les achète en supermarché aussi, on n'a pas besoin d'aller chez le pharmacien ?
Alors, idéalement, si on a beaucoup de régurgitation, il vaut mieux utiliser donc un bain de bouche au quotidien, parce que si on utilise un bain de bouche que l'on trouve en pharmacie, qui est plutôt un bain de bouche de prescription, eh bien, on aura un effet antiseptique qui sera très élevé et on risque de déstabiliser la flore buccale. Donc, le bain de bouche au quotidien. L'intérêt, c'est que souvent, ils ont du fluor, donc ils vont permettre de renforcer l'émail et l'émail sera moins sensible donc à ces attaques acides. Et l'autre problématique par rapport donc à ces vomissements, généralement les obstétriciens et les médecins généralistes disent aux femmes enceintes, si vous vomissez, eh bien il va falloir que vous fragmentiez vos repas. Et le problème de la fragmentation du repas, c'est le même problème que le grignotage, c'est-à-dire qu'on va augmenter le nombre de prises alimentaires au cours de la journée.
Sans se laver les dents à chaque fois.
Les dents, et donc on ne va pas laisser le temps à la salive de pouvoir neutraliser les acides qui se forment après les prises alimentaires et de reminéraliser l'émail. Donc attention à la fragmentation des repas, et en plus, pendant la période de grossesse, il y a une appétence pour le sucre le plus souvent.
Docteur Locard, on ne fait que commencer cet entretien, vous restez avec nous.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons continuer ce point sur les soins dentaires durant la grossesse. Alors justement, nous allons vous détailler ce qu'il est possible de faire ou pas pour soigner ses dents quand on est enceinte. Y a-t-il des produits à éviter, à risque peut-être pour le fœtus? Y a-t-il un trimestre de la grossesse plus à risque d'ailleurs pour se faire soigner les dents? On vous explique tout ça dans quelques toutes petites minutes. A tout de suite sur Europe 1.
Mélanie Gomez sur Europe 1. Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé, Bien-être, une émission sans rendez-vous. Vous êtes tous les bienvenus, évidemment. À mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et notre invité, c'est vous, docteur Christophe Lecard. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors, on fait le point aujourd'hui avec vous, on l'a dit, sur la santé dentaire des femmes enceintes. Justement, on va passer à la pratique. Quels sont finalement les soins qu'on peut faire, les soins dentaires qu'on peut faire quand on est enceinte? Je ne sais pas, si on a une urgence dentaire, une carie, un abcès, on peut venir vous voir?
Il n'y a aucun problème, il n'y a aucune contre-indication de soins pendant toute la période de la grossesse.
Parce qu'on a ça en tête, on a l'impression que le cabinet du dentiste, il nous est fermé pendant 9 mois. Moi, j'avais cette idée fausse en tête.
Non, pas du tout. On peut vraiment venir consulter et se faire soigner pendant toute cette période de grossesse. Généralement, les praticiens vont plutôt éviter le premier trimestre et le dernier trimestre. Le premier trimestre, c'est plus pour des raisons psychologiques, parce que s'il y avait donc une fausse couche au cours de ce premier trimestre, pour qu'il n'y ait pas association par rapport avec les douleurs liées donc aux soins. Et en ce qui concerne le dernier trimestre, c'est tout simplement parce que la position sur le fauteuil n'est pas du tout confortable pour la femme enceinte. Il faut idéalement la soigner plutôt en position assise, parce que si on allonge la femme enceinte et qu'elle se penche du côté gauche, eh bien avec le déplacement de l'utérus, il va y avoir donc une compression de la veine cave inférieure, et donc ça peut entraîner des chutes de tension.
Et des malaises.
Donc, et des malaises. Ouais. Alors c'est très simple, comment on solutionne ça? Eh bien, il suffit de pencher du côté droit, donc la future maman, et tout
vous
revient
avez
dans l'ordre
de, tout ça.
de manière rapide.
Jimmy.
Ce qui veut donc dire qu'une femme enceinte, quel que soit le terme, au premier, deuxième ou troisième trimestre, elle peut, elle doit aller voir son dentiste, on ne repousse pas des soins dentaires du fait d'une grossesse.
On ne repousse surtout pas des soins dentaires d'une fée de la grossesse. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, il y a une invitation de la part de l'assurance maladie à 4 mois et demi de grossesse d'aller faire une visite de contrôle chez le praticien de son choix.
Ça, on le détaillera juste après. Alors, une femme enceinte qui a, je ne sais pas, une carie, par exemple, et vous allez devoir mettre un produit de comblement dans la dent pour boucher le trou de la carie. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, par rapport aux produits que vous pouvez utiliser, aux médicaments que vous pouvez utiliser dans la bouche, des contre-indications, je ne sais pas, un danger pour le fœtus, par exemple, dans les produits de comblement?
Dans l'ensemble des produits que nous utilisons au cabinet, il n'y a aucune contre-indication par rapport à la femme enceinte ou même la femme qui allait par la suite. On va faire attention sur les anesthésiques, mais il n'y a pas non plus de contre-indication particulière de molécules d'anesthésiques.
Vous ne faites pas à vif parce qu'elle est enceinte, parce qu'on évite les anesthésies. Elles n'auront pas plus de douleur.
Ouais. Vraiment, sans aucun problème, réaliser une anesthésie chez une femme enceinte. De la même manière qu'une radiologie. Donc, on peut tout à fait faire une radio chez une femme enceinte.
Le panoramique, là, qu'on fait parfois chez le dentiste,
alors,
ça, vous allez le faire?
Les panoramiques, on peut en faire, et dans ces cas-là, on mettra un tablier de plomb pour protéger,
bien
mais
sûr.
Plus aussi là pour des raisons psychologiques, parce que les rayons vont simplement se limiter au niveau de la face, donc ça n'ira pas du tout à l'endroit où se trouve le fœtus, mais la petite radio classique, enfin, j'aime pas le terme petite, mais la radio que l'on fait en bouche, eh bien, il n'y a vraiment aucun risque parce que ça correspond à une irradiation qui est très très faible, qui est 10 000 fois en dessous du seuil autorisé.
Oui,
et
donc,
une radio dentaire, ça correspond environ à 4 heures de rayonnement solaire. Donc vraiment, si vous êtes enceinte, n'ayez pas peur si votre dentiste vous fait une radio.
Jimmy.
Les soins dentaires s'accompagnent souvent d'une prescription d'antibiotiques. Là encore, vous faites attention et vous prescrivez ce qui est possible. On peut prendre des antibiotiques au cours de la grossesse.
On peut prendre des antibiotiques au cours de la grossesse. Il y a certaines familles d'antibiotiques comme les tétracyclines que l'on ne donne plus aujourd'hui aux femmes enceintes et aux jeunes enfants parce que cette famille d'antibiotiques entraînait des colorations difficiles à gérer au niveau de l'émail des dents. En ce qui concerne les antalgiques, parce que s'il y a des douleurs qui suivent, enfin liées à la présence d'une carie, par exemple, ou des douleurs à la suite d'un soin, eh bien, on recommande uniquement le paracétamol. Il faut éviter. Donc,
comme chez beaucoup de patients aussi, hein, on nous conseille
comme chez la plupart des patients.
Ouais.
Mais là, en plus, avec cette crise, eh bien, les patients ont plus ou moins abandonné donc les anti-inflammatoires non stéroïdiens, l'ibuprofène, entre autres. Donc. Le paracétamol, c'est vraiment le médicament de choix pour la douleur.
Par contre, la grosse chirurgie dentaire, j'allais dire, quelqu'un qui aurait peut-être commencé, je ne sais pas, une pose d'implant et qui tout d'un coup découvre qu'elle est enceinte, là, vous arrêtez tout ce qui est gros chantier, on va dire. Ça, c'est pas l'idéal pendant la grossesse, quand même.
Non, pendant la grossesse, on différera, bien sûr, des poses d'implant, des grosses chirurgies. La seule, peut-être, contre-indication dont je n'ai pas parlé, c'est le blanchiment dentaire.
Ah oui, c'est
donc
vrai.
Donc le blanchiment dentaire n'est pas recommandé pendant la période de grossesse et pendant la période d'allaitement.
Pourquoi ?
Donc, du fait de l'absorption qu'il peut y avoir du produit d'éclaircissement qui est du peroxyde d'hydrogène.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a d'autres soins dentaires qu'on doit décaler ? Donc on a parlé un petit peu là du blanchiment, certains implants. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui doivent faire qu'on se dit bon, on va temporiser, on verra à l'accouchement ? Où on peut même aller, si on n'a pas de symptômes, voir le dentiste, on parlera après la consultation systématique, il n'y a rien, le dentiste ça pose vraiment aucun souci finalement.
Il n'y a vraiment aucun problème pour se faire soigner pendant toute cette période, on peut même réaliser des couronnes, des bridges, donc vraiment il n'y a pas de souci particulier, c'est vraiment des chirurgies très invasives que l'on décalera plutôt après l'accouchement.
Donc c'est vraiment dans la tête des femmes finalement, parce que moi c'est vrai que j'avais l'impression que les dents on pouvait rien faire, et puis j'ai des copines qui m'ont dit oh là là j'ai des soins dentaires mais je suis obligée d'attendre, enfin, on a l'impression qu'on n'a pas le droit de venir vous voir quand on est enceinte, c'est vraiment des idées reçues. Hein.
C'est vraiment des idées reçues et peut-être aussi que d'autres générations de praticiens, on n'avait peut-être pas la même information en ce qui concerne les risques par rapport aux radios, parce qu'on est quand même obligé d'utiliser la radiologie pour de nombreux soins, à la fois pour le dépistage et pour la réalisation du soin en lui-même. Vraiment, il n'y a pas de souci, soyez rassurés.
Docteur Legard, on va faire une courte pause et on continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Son rendez-vous revient dans un instant. Nous allons maintenant passer aux conseils plutôt de prévention et même qu'on peut donner aux femmes enceintes pour elles et pour leur bébé à venir, justement. Vous ne le savez peut-être pas, mais donc les femmes qui attendent un bébé reçoivent une invitation en début de grossesse pour une consultation de prévention chez le dentiste durant laquelle elles reçoivent tout un tas de conseils utiles pour les futures mamans et leur bébé à venir. On vous détaille tout ça juste après. Alors restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez.
De retour sur Europe 1 avec le docteur Jimmy Mohamed et notre invité, c'est vous, docteur Christophe Lecard. Vous êtes chirurgien dentiste et membre de l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Alors, durant la grossesse, on en a déjà un petit peu parlé, normalement, il y a un examen de prévention dentaire qui est organisé chez la femme enceinte. On reçoit une invitation de qui ? De la sécurité sociale ?
Oui, c'est l'assurance maladie qui adresse à l'ensemble des femmes qui ont déclaré leur grossesse, donc une invitation à 4 mois et demi.
D'accord, donc on reçoit ce petit papier. Avec ça, on prend un rendez-vous chez un dentiste, hein ?
Avec ce papier, on peut prendre donc rendez-vous chez le praticien de son choix. Cette consultation est sans avance de frais. Et aussi, l'intérêt de se faire soigner pendant qu'on est dans cette période de grossesse, eh bien, les soins courants passent dans le cadre de la maternité, donc prise en charge à 100% et avec le tiers payant possible chez le praticien.
Alors, si la femme enceinte, elle vient vous voir avec ce petit bon, effectivement, de consultation, un peu de prévention, quel type de conseil, elle a quoi comme but, finalement, même s'il n'y a pas de souci dentaire particulier à ce moment-là ?
Le but est bien sûr de faire un examen de la bouche de la patiente, lui donner des conseils par rapport à cette gingivite de la femme enceinte dont on parlait tout à l'heure, par rapport aux nausées, mais surtout aussi des conseils par rapport au futur bébé. Donc, dans les conseils par rapport au futur bébé, eh bien, d'expliquer que les premières dents vont apparaître vers l'âge de 6 mois. Dès qu'une dent elle est présente en bouche, elle est susceptible de se carier.
Vous les prévenez qu'il y a des bébés qui naissent avec des dents, parce que ça peut faire un peu peur, mais il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a.
Ça reste assez exceptionnel, mais il y a effectivement des possibilités. Alors, l'histoire dit
vous en avez vu déjà, vous, des bébés à dents ?
Moi, jamais, mais l'histoire dit que Napoléon, Louis XIV et César, comme par hasard,
que des grands,
donc, sont nés avec des dents.
Jimmy, vous êtes né avec une dent, vous ?
Non, peut-être que le professeur Raoult est né aussi avec des dents, je ne sais pas.
C'est un autre sujet.
Justement, vous dites que dès qu'on a une dent, on peut avoir des caries. Ça veut donc dire qu'il faut commencer à brosser les premières dents de bébé, mais on fait comment ? Parce qu'un bébé de 6 mois,
ouais, c'est pas évident.
Ou parfois même avant, parfois 3-4 mois, ils ont des dents, et donc on fait avec quoi ?
Eh bien, on utilise une brosse à dents souple avec une tête qui est adaptée à la taille de la bouche
dès 6 mois,
de l'enfant. Dès 6 mois. Et on utilise un dentifrice avec du fluor. On utilise un dentifrice avec une dose inférieure à 1000 ppm, c'est particules par million.
On les trouve où, ces dentifrices
donc,
pour
ces
bébé
dentifrices, ouais. Alors, c'est dentifrices pour enfants. Donc, on les trouve donc.
Il y a les 0-2 ans, moi j'ai vu, alors, les 3-6 ans.
Oui, mais dans les nouvelles recommandations, ce que l'on indique, c'est donc jusqu'à 6 ans, moins de 1000 ppm de fluor. La quantité de dentifrice, elle est très très faible. C'est une trace de dentifrice.
C'est même pas une noisette, hein, c'est ça, non ?
On va venir tapoter les poils sur l'entrée du tube pour avoir vraiment quelques micro-gouttes.
Oui, on n'appuie même pas vraiment sur le tube.
On n'appuie pas du tout sur le tube.
Je pensais qu'il fallait faire avec une compresse, moi, sur les dents d'un bébé.
Au départ, c'était les recommandations, mais aujourd'hui, l'apport en fluor, il se fait uniquement de manière topique, c'est-à-dire par contact. Et donc, ce contact, il est par l'intermédiaire...
quelques secondes, on frotte. Et puis
du dentifrice. Parce qu'avant, on prescrivait des gouttes et des comprimés de fluor. Maintenant, cette prescription de gouttes et de comprimés se fait de manière exceptionnelle en fonction du risque carieux de l'enfant. C'est-à-dire que si un enfant a donc des dents avec des formes particulières, une anatomie particulière, donc ils peuvent augmenter le risque de formation de caries, on fera des prescriptions dans ce cas-là.
Et du coup, on brosse combien de fois par jour les dents d'un bébé ou d'un enfant ? Mais souvent, ils vont l'avaler, quoi, ils ne savent pas cracher, parce qu'en plus, ça a un goût un peu sucré. Mmh. Moi, je suis tenté parfois d'avaler le dentifrice des enfants.
De 6 mois à 1 an, on brosse les dents une fois par jour, le soir, et il n'y a aucun problème si l'enfant avale le dentifrice. Il n'y a pas de risque, même si ce dentifrice contient du fluor. À partir de 2 ans, on passera donc à un brossage matin et soir.
D'accord. Alors, on en a parlé un petit peu, les dents, elles vont sortir. Donc, cette maman qui est enceinte, vous allez lui donner ces informations-là, cette consultation quatrième mois de grossesse. Vous allez peut-être évoquer aussi les poussées dentaires, parce que c'est quelque chose qui vont être amenés à traverser les nouveaux parents. Alors, parfois, ça passe inaperçu, mais souvent, les bébés souffrent. On a eu une question, justement, cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus, d'une maman qui demandait si c'était vrai qu'il fallait frotter du sucre sur la gencive de bébé pour l'aider à faire percer cette dent. C'était une recette de grand-mère. Jimmy nous avait déjà dit en substance que c'était non, mais je voulais votre avis.
Eh bien, Jimmy avait vraiment raison parce que j'ai entendu cette réponse, c'était parfait. Donc, il ne faut surtout pas frotter la gencive de son enfant avec du sucre.
Parce que, quoi que ce soit d'ailleurs.
Ni quoi que ce soit. Donc, le sucre a un petit côté anesthésiant, mais c'était un risque majeur d'amener du sucre dans la bouche d'un enfant par rapport à un risque de formation de caries. Si un enfant a des douleurs liées aux poussées de ses dents de lait, il existe des baumes que l'on peut appliquer sur la gencive, qui vont légèrement anesthésier cette gencive et donc soulager l'enfant. Mais ce qui marche vraiment très bien, ce sont les anneaux de dentition que l'on met au réfrigérateur. C'est vraiment important, au réfrigérateur, et comme l'avait souligné
Jimmy,
pas au congélateur, parce que sinon c'est trop froid et on risque de brûler la gencive de son enfant. Et les poussées dentaires, elles s'accompagnent souvent d'un érythème fessier. Elles peuvent être accompagnées aussi d'un petit peu de fièvre. Et dans ces cas-là, si l'enfant a un tout petit peu de fièvre, on peut lui donner un antalgique, du paracétamol, avec une dose adaptée à son poids.
Jimmy.
Et on évite les colliers d'ambre, je suppose. C'est pas quelque chose qui est très recommandé.
Alors, le collier d'ambre, c'est à proscrire totalement parce que c'est excessif. Alors, il n'y a aucune étude scientifique qui prouve l'efficacité de ces colliers d'ambre.
C'est joli, mais c'est tout.
Et surtout, il y a un risque de strangulation très, très important. Donc, vraiment, ne mettez jamais de collier d'ambre autour de la tête de vos enfants.
Pendant ce rendez-vous de prévention, donc au quatrième mois de grossesse, vous parlez aussi du syndrome du biberon pour ce bébé à venir. C'est quoi le syndrome du biberon chez le bébé ?
Le syndrome du biberon, ce sont des enfants qui ont à disposition, au moment de la sieste et au moment
du coucher,
un biberon qui contient un produit sucré. Alors, ça peut être du lait chocolaté, du sirop. Et cet enfant, il va donc téter pendant toute la période de la sieste et pendant toute la nuit, donc une substance sucrée qui va être en contact avec ses dents de devant. Et donc, ce contact permanent va augmenter le risque de formation de caries. Et malheureusement, on voit arriver des enfants dans nos cabinets âgés de 3 ans avec des caries énormes au niveau de ses dents antérieures.
Si petits, les dents de devant, c'est dingue.
Que l'on peut parfois pas soigner. On est parfois obligé d'extraire ses dents. Et ces enfants ne retrouveront des dents de devant que vers l'âge de 6-7 ans. Donc, vous comprenez la difficulté à la fois pour l'alimentation, mais aussi pour la phonation, parce qu'on ne peut pas parler correctement si on n'a pas de dents.
Très bien, bon, ben on retire tous les biberons pour dormir, ce n'est pas une bonne idée.
Et ce risque aussi existe chez la maman qui allaite son enfant. On peut aussi avoir des caries s'il prend le lait, le sein juste avant de dormir. Il faut bien le dire aux parents de brosser les dents après la tétée, même si souvent ils s'endorment au sein, et donc c'est parfois difficile.
Oui, c'est un conseil que l'on donne. Nos recommandations, nous, en bucco-dentaire, on dira que l'allaitement jusqu'à l'âge de 6 mois, c'est-à-dire à l'apparition des premières dents, parce que le risque de l'allaitement aussi, c'est cette fragmentation des repas, cette prise multiple, et le lait maternel est fortement sucré aussi. Donc, effectivement, essuyer au minimum les dents de son enfant après une tétée nocturne.
À quel âge on vous l'amène pour la première fois, ce bébé qu'on a mis au monde là, qui a, donc vous dites à 6 mois on commence à brosser les dents, et on vous l'amène à 3 ans avant, comment ça,
la première fois ? La première consultation, justement, elle doit être faite dès l'âge de 1 an. Dès l'âge de 1 an pour dépister...
Jimmy, vous avez compris, vous en avez un qui approche là.
Oui.
Ces problèmes alimentaires, ces problèmes liés au syndrome du biberon, pour ne pas arriver à des catastrophes dès l'âge de 3 ans.
Et dernier mot très rapide sur les contaminations croisées, c'est un truc très important aussi pour les bébés, qu'est-ce que c'est ?
Eh bien, un enfant, quand il naît, il n'a pas les bactéries responsables de la formation des caries dans sa bouche, ce sont les parents qui vont lui donner, en l'embrassant sur la bouche, mais aussi quand vous voulez goûter si le plat il est trop chaud de votre enfant, eh bien, si vous ne rincez pas la cuillère, vous allez transmettre vos bactéries dans la bouche de votre enfant. C'est comme la tétine qui tombe par terre pour
la nettoyer. On la nettoie dans notre bouche.
On la met dans sa bouche et on la remet dans la bouche de son enfant. À proscrire totalement, il faut rincer sous l'eau la cuillère et la tétine pour éviter de transmettre ces bactéries à son enfant.
Bon, bah Jimmy baisse la tête, je pense qu'il a dû goûter quelques purées du petit dernier. Merci beaucoup docteur Lecard d'avoir accepté de répondre à nos questions et donc de nous avoir éclairé sur les soins dentaires des futures mamans et aussi sur les premiers soins des dents à apporter même chez les bébés dès qu'ils commencent à avoir des dents. Merci encore.
Merci.
Dans un instant, notre chronique Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, nous nous intéresserons à la petite pilule bleue, le fameux Viagra, un médicament phare aujourd'hui dans la dysfonction érectile. Mais savez-vous que ce traitement a été découvert un peu par hasard il y a plus de 20 ans ? Nous ferons le point. À tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h en compagnie du docteur Jimmy Mohamed. Alors il est temps à présent de passer à notre séquence Les mots du quotidien. Et aujourd'hui, focus sur la petite pilule bleue, le Viagra. Savez-vous comment a été découvert ce traitement? Comment doit-on l'utiliser? S'il comporte des risques? Justement, Benjamin Lévesque a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Le Viagra, une petite pilule bleue.
Le Viagra, c'est une petite pilule pour pouvoir avoir des rapports sexuels.
Je pense que quand on bande un peu mou, on prend du Viagra et ça aide.
C'est pas immédiat, hein, mais après c'est juste, j'avoue que je sais pas, mais je pense que ça doit venir au bout de 3 heures.
Surtout pour les hommes âgés justement, pour pouvoir continuer à avoir une sexualité épanouie et durable.
Votre mari, il en a jamais eu besoin?
Pas pour l'instant, j'espère que ça ira sans.
Moi j'ai jamais essayé. Je pense qu'il y a certainement pas mal de jeunes qui ont dû essayer juste pour le plaisir et pour rigoler.
Ça peut provoquer justement le priapisme, le fait d'avoir une érection qui ne s'arrête pas.
Après, s'il y en a un pour les femmes, on est quand même dans une égalité homme-femme et il n'y a pas que l'homme qui prend du plaisir. Et ça serait cool pour elles aussi si ça leur permet d'aller à l'extase et de s'éclater aussi. Ça serait cool aussi.
Alors Jimmy, on va parler donc du Viagra aujourd'hui. D'abord, on va faire un petit point d'histoire. C'est un médicament dont l'intérêt pour traiter en tout cas les problèmes d'érection a été découvert finalement par hasard.
Eh oui, à la base, le Viagra, c'était pas destiné à traiter les dysfonctions érectiles. C'était à la base un traitement utilisé en cardiologie pour puisqu'on s'est rendu compte que ça dilatait les vaisseaux sanguins et donc on s'est dit que ça pouvait être efficace dans l'engorge de poitrine, l'angine de poitrine, et c'est les laboratoires Pfizer qui l'ont découvert. Sauf que au cours des essais cliniques, ils se sont rendus compte déjà que le médicament marchait pas très bien en cardiologie, mais que certains patients traités avaient des érections qui duraient plusieurs jours.
Un hasard heureux, entre guillemets. Alors Jimmy, tout ça, c'était il y a un peu plus de 20 ans. Et depuis, la petite pilule bleue est entrée sur le marché pour venir en aide à de nombreux monsieur.
Eh oui, mars 98, une date gravée dans les annales. L'agence américaine du médicament autorise et approuve le Viagra, qui a fait l'objet de plus de 65 millions d'ordonnances dans le monde et a été vendu à des milliards d'exemplaires. Et puis, pour vous dire l'engouement et le succès, avant même son autorisation en dehors du sol américain, eh bien dans des pays comme en Israël, en Pologne ou en Arabie Saoudite, certaines pilules se vendaient dès le printemps 98 sous le manteau à des prix 3 à 5 fois supérieurs le prix légal américain. Et puis évidemment, rançon du succès, rapidement des contrefaçons ont vu
c'est
le jour.
C'est le médicament, je crois, le plus contrefait. Hein, c'est ça. On n'est pas là pour faire une publicité sur le Viagra, on est d'accord, on n'a aucun conflit d'intérêt avec ce truc-là, mais on trouvait l'histoire intéressante. Et puis surtout, donc, à qui on le prescrit aujourd'hui?
Alors,
et puis, il y en a d'autres, des médicaments aujourd'hui.
Oui, exactement. Alors, il y en a d'autres, voilà. Le Cialis, par exemple, il y a trois classes médicamenteuses qui peuvent être utilisées. Donc, chez des hommes qui souffrent de dysfonction érectile ou d'impuissance, mais en l'absence de contre-indication. Alors, on le prend une heure avant le rapport sexuel possible. Le Viagra peut vous donner une érection durant 4 heures pour les plus chanceux. Et puis, d'autres classes médicamenteuses peuvent vous donner des érections bien plus longues durant 36 heures. Vous pouvez être en érection. Et attention, vous avez besoin d'un désir sexuel. C'est pas automatique.
Ça marche pas tout seul.
Et oui, c'est comme les antibiotiques, c'est pas automatique. Et donc, il faut quand même du désir. Et attention, il y a des contre-indications à ce traitement.
Alors, justement, lesquelles? C'est important.
Alors, déjà, c'est les contre-indications cardiovasculaires, puisque le rapport sexuel, c'est un effort.
Déjà, en soi.
Et donc, il faut être sûr que vous n'ayez pas de maladie cardiovasculaire. Il faut faire attention aussi à certains antécédents si vous êtes à risque de priapisme. Le priapisme, c'est lorsque vous avez une érection qui dure plus de 4 heures, qu'on peut avoir notamment dans la drépanocytose.
Et c'est
dangereux. C'est une contre-indication, puisque toute érection de plus de 4 heures doit vous faire conduire aux urgences, car il y a un risque de lésion irrémédiable et définitive des corps caverneux.
Oh là là, oui.
Et donc, il faut consulter. Donc, voilà. Toute prescription de toute façon de Viagra ou d'un autre traitement doit être soumise à une prescription donc médicale, donc un avis médical.
Et c'est quoi les risques rapidement, Jimmy, justement, de ce médicament?
Alors, ils sont quand même assez bien tolérés. On évite de les donner quand il y a des hypotensions ou des hypertensions artérielles qui sont mal contrôlées. Puis certains autres traitements peuvent entraîner des interactions médicamenteuses. C'est le cas d'autres dérivés nitrés qu'on peut utiliser dans l'angine de poitrine. Bref, surtout, vous l'achetez sur prescription. Et même si ça fait du bien à la santé, c'est pas remboursé par la Sécurité sociale.
Merci beaucoup Jimmy pour toutes ces précisions.
Europe 1, Mélanie Gomez.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui rentre dans ce studio. Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy.
Aujourd'hui, on a une question d'Audrey, je vous la lis. J'ai toujours été en couple avec des garçons, mais depuis un an et demi, j'éprouve de plus en plus d'attirance pour les femmes. Est-ce qu'on peut devenir, Catherine, bisexuelle du jour au lendemain ? Alors, on va aller droit au but, Catherine. Est-ce qu'on peut devenir, donc, pour répondre à la question, bisexuelle, comme ça, tout d'un coup ?
Bah, c'est jamais tout d'un coup. La construction d'un individu se fait tout au long de sa vie. Et donc, ce vers quoi il tend s'inscrit, se bâtit. C'est pas un truc parce que c'est à la mode, c'est pas un truc parce que ça vous tombe dessus. C'est parce qu'il y a les
Alors,
ressources.
Je vous l'ai pas dit, mais
elle
a 32 ans, Audrey. Donc, est-ce qu'on peut devenir tout d'un coup à 32 ans après une sexualité uniquement orientée d'une façon ?
En fait, la source est en elle de toujours. Elle s'est construite avec ça. Elle l'a refoulée probablement. Pour X raisons, culturelles, d'éducation, de liens avec les uns et les autres, de culpabilité peut-être, sans en prendre conscience nécessairement. D'ailleurs, elle pourrait s'interroger sur la façon qu'elle avait de fonctionner avec les hommes, quel était son rôle, parce que vous avez des couples hétérosexuels, mais dont les rôles ne sont pas le masculin du côté du masculin, le féminin du côté du féminin. En tout cas, ce que l'on peut dire, être féminin ou masculin, encore une fois, tout ça mériterait de nombreux débats. Mais donc, effectivement, elle peut tout d'un coup ou fuir le masculin parce que d'un seul coup il y a eu trop de violence et un besoin d'aller voir autre chose et observer autre chose ou retrouver quelque chose qui était inscrit en elle et qu'elle avait refoulé ou tout simplement arrêter de jouer une sorte de faux self, de fausse image d'elle-même qu'elle ne s'était pas révélée et qui tout d'un coup à la faveur d'une relation se met en évidence.
Jimmy ?
Là, elle parle d'attirance, c'est pas forcément sexuel, elle peut juste trouver le corps d'une femme beau, la trouver quelqu'un charmant, avoir peut-être un peu d'affinité, même une relation amicale, mais sans arrière-pensée sexuelle d'ailleurs.
Je pense qu'elle en a quelques arrière-pensées quand même, mais non.
Mais en tout cas, pour répondre à la question de Jimmy, je pense que d'une certaine manière, parfois cette idée qu'on pourrait être bisexuel ou qu'on pourrait avoir envie de rechercher une relation avec une femme, ça n'est pas toujours apparenté à la réalité, en effet, d'une vie sexuelle avec une femme. Et souvent, c'est une façon d'aller vers peut-être de la tendresse, de la douceur, donc plutôt quelque chose de l'ordre de la relation fraternelle ou de quelque chose qui est
assez fine du docteur Jimmy Mohamed.
Oui, non, mais il peut avoir des analyses très fines, pas toujours. Hein.
Je progresse. Mais... Oui, c'est vrai que des fois c'est limite.
D'accord, mais c'est pas forcément. Elle peut être attirée sans qu'il y ait forcément de désir sexuel.
C'est-à-dire qu'elle peut être attirée, mais peut-être c'est une image de soi. Il n'y a pas dans la relation avec, j'allais dire, de même thé, c'est-à-dire avec le même sexe, le même genre que soi, il peut y avoir aussi une recherche de soi-même dans l'autre et pas nécessairement une histoire d'expression ou de développement de sa sexualité. Donc, encore une fois, arrêtons de mettre des étiquettes pour dire ça, ces gens sont hétérosexuels, ces gens sont homosexuels ou ces gens sont bisexuels. Finalement, derrière ces mots, il n'y a pas toujours la sexualité chez les homos, chez les hétéros ou chez les bi. Il y a parfois d'autres choses qui se cherchent, mais qui, parce qu'il faut rentrer dans une relation et une relation spécifique, se targue de sexualité pour acter de quelque chose. Ça ne veut pas dire que c'est la recherche initiale.
Et justement, on disait qu'Audrey, donc, elle a 32 ans. Parfois, il faut peut-être aussi plusieurs années parce qu'elle avait peut-être une pression familiale. Elle avait honte par rapport à ses proches, j'en sais rien. Et le fait d'arriver parfois à un certain âge, au bout d'un moment, on n'est plus libre, c'est ça ?
C'est ça. Vous avez des couples qui sont hétérosexuels, qui ont des enfants, et puis tout d'un coup, ils divorcent et le nouveau ou la nouvelle se trouve être du même sexe. Preuve que quand même, ça ne sort pas de nulle part. Ouais. Ce n'est pas le dégoût qu'a causé le partenaire avec lequel on était, mais bien une difficulté de s'inscrire dans son genre aimant le genre opposé et qui à un moment donné s'autorise grâce à la maturité acquise.
Jimmy, une dernière question.
Parfois on goûte de nouveaux plats, on découvre des saveurs, est-ce qu'il faut qu'elle passe le cap ?
Référence culinaire, ça faisait longtemps.
Ah oui. Vas-y. Top chef à nouveau.
Exactement, top chef. Mm-hmm. Est-ce qu'il faut qu'elle passe le cap et qu'elle tente l'expérience pour voir si vraiment... c'est pour elle ou que c'est...
Mais en tout cas, elle en a le souhait, donc qu'elle avance là-dedans. Après, elle verra si quand il y a de la douceur, de la possibilité, de l'accueil de l'autre, si elle se sent toujours de... Je crois que dans la sexualité, toute sexualité, on peut avoir des curiosités, mais il faut savoir qu'à tout moment, nous pouvons rétrograder, nous pouvons dire non, finalement, ce n'est pas mon truc. C'est pas parce qu'on s'est engagé vers l'autre qu'on est obligé de consommer la relation ou d'être fidèle à ce que l'autre tout d'un coup, imagine possible. Donc, elle n'a pas à le faire, mais si elle le souhaite, qu'elle tende vers cela.
Merci beaucoup Catherine pour tous vos conseils précieux. Comme toujours, voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve demain dans son rendez-vous. Vous verrez que l'on peut maigrir en prenant soin de ses propres bactéries et oui, de notre fameux microbiote. On va vous expliquer demain comment le chouchouter, bien sûr. Tout de suite, place à Mathieu Noël et à son équipe sauvage. Bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie. Aujourd'hui, un journaliste qui a inventé, qui a réinventé la manière de parler politique à la télévision avec son émission C'est Politique, qui cartonne sur France 5. Karim Rissouli sera avec nous pour une rediffusion. Vous adorez, je crois, les rediffusions, Mélanie. C'est vos émissions préférées, en fait. Vous comprenez
c'est
mieux
ça,
la deuxième
exactement.
Fois.
C'est exactement. Exactement. J'ai toujours besoin de deux écoutes pour bien comprendre, donc ça tombe bien.
C'est parfait.
Je serai là, évidemment. Et vous aussi, surtout, restez sur Europe 1.